Bonjour et bienvenue dans cette troisième partie, une leçon en trois parties sur la scénarisation. Dans cette troisième partie, ce qui va nous intéresser réellement, c'est deux autres explorations sur la façon de scénariser. Une première exploration en utilisant la même étude de cas que la seconde partie, ça va être comment utilise-t-on l'approche inductive de scénarisation. Et la deuxième partie de la présentation sera comment utilise-t-on une approche qu'on appelle incrémentale de la scénarisation. Ensuite, je termine en essayant de vous préciser quand une approche ou l'autre est préférée. Merci, bonne vidéo. Donc ça, c'est une méthode pour faire un scénario dans ce cas particulier. Deuxième méthode, c'est on part dans l'autre chose, on reprend, on identifie des enjeux clés, et puis on travaille sur l'événement lui-même. Donc je vais passer ça et on va reprendre la même histoire hein, avec l'enjeu. Et cette fois-ci, on passe par événement, pas par force motrice. Caractéristiques. Et puis, il y a événement, force motrice. Donc, le premier exemple que j'avais donné avait permis d'explorer les avenirs possibles pour des planificateurs. Maintenant, on va regarder cette affaire-là et on va voir qu'on peut arriver à des conclusions différentes simplement parce qu'on construit le scénario différemment. Je reprends la même histoire. Alors, ce qui a changé, c'est la façon de réfléchir à l'avenir. Je vais faire un peu de nettoyage. Ça reste pareil. Ok, je reprends ma même histoire. On a pris des acteurs, ils ont trouvé des enjeux. Ces enjeux sont les pertes en euros liées aux inondations et l'érosion de la plage. Et là, au lieu d'utiliser une méthode inductive où je regarde les choses se dérouler et je déduis les événements, je vais faire ça différemment. Je vais dire, il y a une chose que je crains ou qui m'intéresse, c'est la super inondation. C'est une autre façon de voir les choses, hein. C'est juste, au lieu de dire qu'est-ce qui va se passer, de se dire, maintenant, ce qui m'effraie, dans l'autre sens. Ce qui m'effraie, c'est l'événement super inondation. Donc je pars à l'envers par rapport à la pharmacie. Et puis la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui pourrait m'amener là? Quelle sorte d'avenir pourrait m'amener à super inondation? Et donc, je vais caractériser l'événement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une super inondation, en fait? C'est une vraie question qu'on se pose. Hein. On se pose au niveau de la Commission européenne, on se pose à plein de niveaux. Qu'est-ce que c'est qu'une super inondation? Par exemple, Xynthia. On a connu Xynthia, tous vous avez vu que Xynthia s'est passé, Xynthia c'est un événement dramatique. Xynthia était une toute petite tempête de rien du tout. Donc par exemple, une super inondation comme Xynthia, c'est pas une super tempête. C'est important, c'est pas la même chose. Il y a des très grosses tempêtes, on se rend même pas compte que ça passe. Et puis il y a des petites tempêtes, elles font des catastrophes. Qu'est-ce que c'est qu'une super inondation? Comment est-ce qu'on va la caractériser? Je vais vous demander de répondre. Qu'est-ce que c'est qu'une super inondation?
Il y a énormément de dégâts.
C'est ça, il y a énormément de dégâts, énormément de pertes. En fait, c'est des dégâts
caractéristiques de l'objet, il perd. Effectivement. Donc, on se dit, voilà, l'événement qu'on envisage sur cette ville-là, c'est une vraiment grosse inondation. Et une grosse inondation, ça ne veut pas dire nécessairement une tempête gigantesque ou quoi que ce soit, ça veut simplement dire qu'il y a de gros dégâts. On peut après caractériser les dégâts en euros. Ici, je vais ajouter les pertes de vie humaine. Je pense que ces deux-là suffisent largement pour nous occuper. Ok, donc méthode inductive. On prend l'enjeu, l'événement, on caractérise l'événement, et puis c'est seulement maintenant qu'on va faire le lien entre l'événement, ses caractéristiques et les drivers. Alors attention, parce qu'on dit super inondation, c'est des très gros dégâts, mais c'est quand même ça, fonction d'une hauteur d'eau, de la durée de l'inondation et de la valeur des objets exposés. On est dans le même système, seulement on a réfléchi différemment dessus. Et puis, on regarde qu'est-ce qui va nous amener à ça, qu'est-ce qui va nous amener à ça, qu'est-ce qui va nous amener à ça. Qu'est-ce qu'il y a dans comment les drivers peuvent nous amener à l'événement et les forces motrices. Et donc, on sait que changement climatique qui est derrière ici va donner plus haut d'eau, une distance. Mais ce qu'on voit très clairement, c'est que c'est au niveau de la valeur exposée que la question se pose réellement. Je pense qu'en retournant la façon dont on pose la question, on voit quelque chose d'autre. Ce qu'on voit, c'est alors là, il y a évidemment deux questions. Il y a l'exposition, est-ce qu'on protège l'objet ou pas ? Est-ce qu'il est là, dans le chemin de l'eau ? Et puis, à combien il vaut ? Quelque chose qui vaut rien, qui est dans le chemin de l'eau, il n'y a pas de gros dégâts. Quelque chose qui vaut beaucoup, mais qu'on a entouré d'une belle digue, ne pose pas. Et donc, on va se retrouver ici avec une réflexion. Si je refais mon histoire à partir de là, c'est plus du tout la même histoire. Je vais partir dans l'ordre inverse. L'histoire scénarisée que je vais raconter, c'est il y a eu une gigantesque inondation. Parce que la valeur de l'immobilier a cru terriblement. Ou parce que les forces politiques ont été négligentes dans la protection de notre ville de Cesanatico. Et puis, on peut dire ici, la valeur a augmenté parce qu'il n'y a peut-être pas eu une bonne politique sur le développement de la côte. Enfin, après, c'est les acteurs qui vont raconter, qui vont trouver des histoires. Et petit à petit, on va se retrouver avec une histoire à l'envers. Et ça va nous dire, nous donner des chemins d'avenir possible menant à cette catastrophe. Mais également, l'idée, c'est d'empêcher la catastrophe. Et de voir où sont ces interrupteurs-là. Dans un monde normal, les deux façons devraient nous donner les mêmes histoires. Mais en réalité, ce n'est pas comme ça que ça marche. La façon dont on aborde le problème, nous donne une histoire différente, nous permet d'expliciter, d'appréhender, et puis d'imaginer des avenirs pour agir comme il faut. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que c'est clair ? Ça me semble assez simple, hein, comme concept. On prend un côté, on prend l'autre côté, on réfléchit à l'avenir, et ça nous permet de nous positionner par rapport à des incertitudes. Donc là, c'était l'approche inductive, et je vais essayer de terminer avec la dernière approche dont je vous avais parlé, qui était l'approche incrémentale. Alors, pour l'approche incrémentale, ce qu'on va faire, c'est quelque chose d'un peu différent. On va dire, c'est que on va identifier les enjeux clés, comme toujours, et puis on va se demander, on va définir le chemin désirable. Et puis aujourd'hui, on va identifier des bifurcations potentielles. Alors là, c'est une façon de scénariser complètement différente. Mais je vais simplement vous raconter une histoire, vous montrer comment ça fonctionne, mais c'est assez simple. Même situation, tout est pareil, les enjeux c'est des pertes et l'érosion, peu importe. Et ce qu'on va faire dans une approche incrémentale, c'est quelque chose d'assez simple et amusant, c'est raconter l'histoire idéale. Et l'histoire idéale, ou un type d'histoire, l'histoire pourrait ressembler à un type idéal, quelque chose qui sort des idées, c'est de dire, on commence en disant, on prend notre horizon de scénarisation, on va dire en 2050, tout va bien. Car, malgré le changement climatique, on n'a pas d'inondation. Catastrophique, car on a mis les choses à l'abri. En tout cas, les choses présentes à Tuzanatico, car on a fait des plans intelligents. Je fais ça très simplement. Hein. Donc on raconte une histoire idéale. On dit voilà, aujourd'hui nous sommes en 2013. Et bien en 2013, on commence à réfléchir au changement climatique. On se rend compte que des maisons peuvent être exposées, qu'il y a d'incertitudes. Et bien tout de suite, on va mettre une digue. Tout de suite, on va déménager le musée. Et puis petit à petit, on va tout organiser pour qu'au moment où l'énergie des vagues est maximale, l'intensité des tempêtes, etc., et bien quand ça se manifestera, on sera à l'abri. On raconte un scénario idéal. Et puis, dans cette façon de scénariser incrémentalement, on va dire, oui, mais qu'est-ce qui ferait qu'on pourrait ne pas faire un bon plan? Alors, un exemple typique, c'est les agents municipaux sont corrompus et acceptent la construction d'un hôtel sur la plage. Et donc, on dit, mais voilà, il existe une possibilité que le plan se passe mal pour des raisons de corruption. Et donc, je viens aussi répondre aux questions.
Non, en fait, enfin, je ne comprends pas, en fait, c'est clair, après c'est transparent, puis...
Ah oui. Malgré le changement climatique, on n'a pas d'inondation. Ouais. C'est en fait, on raconte l'histoire à l'envers comme si elle était parfaite. C'est une histoire prédictive. Et donc, tout va bien, car malgré le changement climatique, je suis d'accord que les trois petits points ne sont pas très clairs. Hein. Malgré les CC, changement climatique, pas d'inondation. Et on n'a pas d'inondation parce qu'on a mis les choses à l'abri. Et on a mis les choses à l'abri car on a fait des plans intelligents qui prévoyaient ces affaires-là. Et puis on commence à se demander, mais comment pourrait-on dévier de ce chemin vertueux? Et première déviation, par exemple, on fait un plan très mal fait parce que on corrompt les fonctionnaires et on leur dit mais rendez constructible le front de plage. On installe un hôtel, c'est très bête, hein, dans 20 ans ce sera inondé, il y aura des pertes gigantesques, c'est une bêtise. Et puis on réfléchit au plan contingent qui font que ce virage-ci n'est pas pris. On se représente l'avenir de nouveau, différemment. Et puis, par exemple, là, on a mis les choses à l'abri. Alors ici, on pourrait imaginer, mais on a fait le bon plan, mais on n'a pas pu le mettre en œuvre parce qu'on manquait d'argent. Et donc, ça nous permet de réfléchir à un avenir où on se dit, ah oui, mais si on fait le plan comme il faut et faudra mettre les choses à l'abri, construire une digue, etc., mettre des portes de bassines, ou ce qu'on veut, eh bien, il faut prévoir un fonds. J'aurais pu raconter argent ici, corruption là, c'est pas vraiment important. Et puis ici, qu'est-ce qui ferait qu'on serait quand même inondé? Mais on pourrait imaginer qu'en fait, notre beau plan et sa mise en œuvre nous a fait croire qu'on était à l'abri de tout. Et qu'on n'a pas des plans pour des situations imprévisibles. Et donc on est quand même inondé. Et donc ici, il faudrait mettre, je ne sais pas moi, pas prêt à tout. Il demande de réfléchir différemment, et en fait on fera un autre scénario pour ça. Et ainsi de suite. Et donc, vous voyez que chaque façon d'aborder l'avenir nous a donné une histoire différente. Je crois réellement que chacune des trois histoires que je vous ai racontées super vite, c'est un travail qui met plusieurs mois normalement, parce qu'on est très soigneux, parce qu'on parle de l'avenir de vraies personnes. Chaque scénario permet d'équiper les gens intellectuellement pour voir l'avenir d'un système pour lequel, en réalité, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer. Déductif. On prend et on imagine l'avenir se déroulant comme ça. Inductif, on imagine quelque chose qu'on ne désire pas dans l'avenir et on recule pour savoir ce qui pourrait nous mener là. J'ai oublié le nom. Quelqu'un qui a bien pris note peut me dire. Oh, ça n'existe pas ici, les gens qui vont venir note. Incrémental. Typiquement, eh bien, on se donne un chemin pour l'avenir et on regarde ce qui pourrait ou dévier de ce chemin. Ok. Alors, la seule chose dont je n'ai pas vraiment parlé, il y a deux choses dont je n'ai pas parlé en vous parlant de choix et d'incertitude. La première, c'est que dans ces choix, il y a de vrais choix politiques à faire. Et j'en parle pas encore ici. C'est-à-dire qu'en fait, pendant qu'on fait le scénario avec des décideurs politiques, on peut très bien décider de mettre une digue, de ne pas en mettre, de mettre un règlement, de ne pas mettre de règlement. En fait, c'est l'occasion d'essayer de résoudre cette question qui m'a été posée sur « mais à la fin, qu'est-ce qu'on fait ?» Ce qu'on fait, c'est qu'on explore la réalité dans toutes ses dimensions, y compris son incertitude, toutes les valeurs, acteurs en présence, des enjeux, et on commence à réfléchir à ce qu'on peut faire concrètement, et pour finir, on peut faire concrètement aussi. La deuxième chose dont je n'ai pas parlé, c'est les cas très 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 extrême. Quand on ne sait pas si quelque chose va se passer ou non, mais on sait que les conséquences seraient abominables. C'est-à-dire des situations où on n'a aucune idée sur les probabilités, mais on sait que si on va là, c'est vraiment terriblement grave. Alors, on pourrait imaginer... J'aimerais vous y amener sans utiliser le mot, une situation où, imaginons que le fait d'agir ou de non agir, c'est un mode d'action, fasse disparaître l'espèce humaine. On pense qu'il y a une possibilité. C'est les conséquences maximales pour nous, hein. Pas pour la beauté du monde, mais pour nous, c'est en même temps. On ne sait pas vraiment bien scénariser ces histoires-là. Quand les conséquences deviennent trop importantes, on ne sait pas très bien comment les apprivoiser. Un exemple assez simple, vous inventez une nouvelle forme de chimie qui pourrait se déployer dans la nature et on n'a aucune idée de ce qui va se passer. Et il y a peut-être une toute petite chance que ce soit catastrophique, mais on n'en sait rien du tout, vraiment rien du tout. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? Alors dans un cas pareil, on verra ça à la prochaine leçon, mais on va commencer à réfléchir à quelque chose qui s'appelle un principe qui est le principe de précaution, qui n'est pas un principe d'inaction, mais qui est un principe de se dire il y a des domaines où on doit appliquer ce principe, et je vous en parlerai la semaine prochaine, qui est un choix fondamental lié à l'incertitude qui n'est pas du tout soluble dans le scénario. Donc, dans l'étude de cas très simplifiée au tableau que je viens de vous présenter là, on a présenté trois façons d'approcher la scénarisation. Une première façon, l'approche déductive, nous identifions des enjeux clés, et puis nous regardons les drivers du système, les forceurs extérieurs, et petit à petit, nous regardons comment
l'évolution du système à partir de l'évolution de driver va conduire à une situation où les enjeux clés seront ou non menacés. La deuxième façon de faire cela, c'est l'approche, excusez-moi un instant, inductive. J'ai du mal à me souvenir de ce mot-là, bien que vous soyez obligé de vous en souvenir, à mon avis. L'approche inductive, c'est d'identifier les enjeux clés et puis de partir des événements qui pourraient menacer ces enjeux et descendre la chaîne jusqu'au moment où on voit comment les drivers pourraient amener à ces événements qui nous gênent. La troisième méthode, c'est l'approche incrémentale, que je vous ai présentée, c'est cette idée de définir un chemin, un sentier optimal, et puis d'identifier toutes les bifurcations qui pourraient nous écarter de ce sentier optimal. Alors, la question que j'ai envie d'aborder avec vous, très brièvement ici, c'est pourquoi et comment choisir un type de scénarisation plutôt qu'un autre. Et je vais essayer d'être assez simple et direct là-dessus. L'approche déductive consiste à identifier des enjeux clés, à identifier les forceurs, et puis de mobiliser un savoir robuste pour savoir comment le forçage peut venir menacer les enjeux clés. C'est l'approche la plus utilisée dans le monde de la scénarisation, et c'est une approche que je préconiserais d'expérience dans un cas absolument, c'est lorsque l'on souhaite que la science, le savoir robuste scientifique et le savoir local progressent ensemble et échangent pour développer une connaissance de la réalité qui soit en congruence. Donc, pour un exercice d'intégration savoir politique publique, savoir société, eh bien, l'approche déductive est absolument quelque chose à préconiser. Mais parfois, nous n'avons pas la science à notre disposition, nous n'avons pas cette science à partager, et puis les gens n'ont pas cette expérience prospective à partager. On peut être dans des cas où nous voulons identifier les questions scientifiques qui doivent être explorées avec la population. Donc c'est un peu différent, on n'est pas dans un lieu de partage, on est un lieu de définition conjointe. Et l'approche inductive, celle qui consiste à identifier des enjeux, puis les événements, puis remonter la chaîne jusqu'au forceur, eh bien, elle, je la préconiserais absolument lorsque nous sommes dans une situation où il faut définir le type de recherche que l'on souhaite faire. Parce qu'en partant des enjeux et de l'événement menaçant l'enjeu, eh bien, au lieu d'explorer plusieurs pistes dans toutes sortes de directions, on répond à des questions étage par étage et on fait la science chemin faisant. Donc, si votre objectif c'est d'une co-construction du savoir, non pas un partage mais une co-construction, eh bien, envisagez sérieusement l'approche inductive. Finalement, l'approche incrémentale, elle est très différente. Elle consiste simplement à se projeter dans un avenir désiré et à identifier les moments critiques où une bifurcation peut apparaître. Et cette dernière approche, je la préconiserai dans un cas très très particulier. C'est un cas qui a deux particularités. La première particularité, c'est lorsqu'il est utile et nécessaire de développer une vision commune de l'avenir avec la communauté locale. Si cette vision commune de l'avenir n'existe pas, eh bien, entre l'intervenant terrain et les communautés locales, eh bien, l'idée de cette approche incrémentale, comme la première étape c'est de définir le lieu d'arrivée et le chemin que l'on veut prendre, eh bien, ça permet d'engager la communauté dans la construction d'un avenir désiré. Ensuite, la deuxième particularité de l'approche incrémentale qui est critique, c'est que dans la mesure où on identifie ces points charnières ou le chemin, on pourrait quitter ce chemin désiré, eh bien, l'approche incrémentale s'adapte très bien à des questions de haute incertitude sur la volition, sur la conséquence de notre volonté de prise de décision, sur la conséquence de notre prise de décision dont on ne connaît pas encore la nature dans l'avenir. Donc si on veut anticiper des prises de décision pour essayer d'améliorer la prise de décision à l'avenir, eh bien, si l'on désire soulever l'incertitude de volition, eh bien, l'approche incrémentale est celle qu'il faut préconiser. Donc, que choisir ? Intégration science-société ? Une approche déductive. Co-construction de la science à créer ? Approche inductive. Construction d'un espace commun, d'un avenir commun, avec identification des décisions clés à prendre, eh bien, on va prendre une approche incrémentale. Voilà, ceci conclut la leçon sur les scénarios. C'est enregistré dans un lieu où nous travaillons, il y a du bruit autour de nous, et bien c'est bien. J'espère que nous nous verrons un jour en réalité. Merci. Et voilà. Ceci conclut cette présentation sur la scénarisation. Ce que j'aimerais que vous ayez acquis, c'est deux choses. D'abord, une compréhension claire de pourquoi nous scénarisons. Je vous ai déjà dit ça à la fin de la première partie. Et ensuite, la capacité de faire le choix entre les trois approches de scénarisation. En fait, en tant que praticien de ce genre d'activité, une de mes grandes frustrations, et je vais la partager avec vous pour conclure, est le recours systématique ou trop fréquent à l'approche déductive. Or, typiquement, les approches inductives et incrémentales ont leur utilité, et ce que je souhaite, c'est que, ben, par exemple, si vous êtes confronté à des questions de prospective pour définir un avenir commun et que vous soulevez des questions de prise de décision, de volition, d'incertitude sur la prise de décision, bien, pensez à l'approche incrémentale. Et si vous voulez faire de la co-construction, eh bien, structurez-vous en suivant l'approche inductive. Voilà, maintenant, ça termine cette leçon en trois parties. Merci beaucoup pour votre patience. J'espère que cela vous aura été utile. À bientôt, peut-être sur le terrain. Et merci.